Des mises à jour pour tous vos appareils, elles sont arrivées lundi soir, mais qu'apportent-elles et sont-elles sûres? Dans quelques minutes, on vous dit tout sur les nouvelles versions 16.3 d'iOS, iPadOS, tvOS et HomePod, de WatchOS 9.3 et de macOS Ventura 13.2. La crise dans la Silicon Valley, plus de 50 000 licenciements en quelques semaines. Ces derniers jours, Microsoft et Google ont à leur tour annoncé plus de 10 000 licenciements chacun, après Meta, Salesforce ou encore Amazon. Et Apple, eh bien on va se poser la question. Et puis retour sur le lancement du HomePod 2 avant sa sortie le 3 février prochain. Les apparences seraient-elles trompeuses? Et si, au-delà d'un son potentiellement exceptionnel, la nouvelle enceinte était un élément majeur de la nouvelle stratégie d'Apple autour de la domotique? Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, ici Benjamin Vincent, je suis ravi de vous retrouver pour ce 121e numéro d'iWeek, la semaine Apple, c'est le podcast hebdo de référence sur l'actu de l'écosystème Apple. Bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous et bonjour à la team iWeek avec aujourd'hui autour de la table virtuelle, Elia Bitbol.
Bonjour mon capitaine, je suis là.
C'est sympa de prendre la relève de l'absent du jour, Fabrice Neumann. Sympa de te retrouver aussi, Elie. Salut Gilles Dounès.
Salut Benjamin Vincent, capitaine, oh mon capitaine.
Et oui. Et salut François Le Truédic, autre moussaillon.
Bonjour très chers amis, très heureux de vous retrouver autour de cette magnifique table virtuelle et j'ai hâte de pouvoir mettre mon casque Apple pour pouvoir... Avoir la possibilité d'être en immersion totale avec vous.
Ça arrivera et ça nous permettra comme ça d'ajouter Fabrice Neumann qui est donc au fond de son lit. Fabrice, on espère te retrouver en pleine forme dès la semaine prochaine parce que c'est sûr qu'aujourd'hui tu vas nous manquer. Alors je vous rappelle qu'iWeek, la semaine Apple, c'est un podcast gratuit qui est accessible sur toutes les principales plateformes dont bien sûr Apple Podcasts, Spotify, Deezer et les autres. Suivez iWeek, cliquez sur le bouton dédié et vous ne raterez aucun épisode. Merci au passage pour vos notes 5 étoiles et pour vos avis sur Apple Podcast. Merci au dernier en date, Switcher Apple, qui a écrit, et j'ouvre les guillemets, « Merci pour ces très bons moments d'écoute, j'adore votre vision, votre humour et votre rythme. Je suis impatient de vous entendre toutes les semaines. » Eh bien, c'est très sympa, Switcher Apple, d'avoir pris le temps d'écrire ces quelques mots. Faites comme lui, ou comme elle, je ne sais pas. Vous donnerez ainsi envie à ceux qui ne nous connaissent pas de nous découvrir. C'est super important. Et ça vous prend, allez, une petite minute. Et donc, on compte sur vous. On vous propose aussi de rejoindre la communauté iWeek sur patreon.com/iWeek. En devenant soutien d'iWeek, vous accédez notamment à la version vidéo de ce podcast avec 3 jours d'avance sur YouTube. Et sans pub. Et puis à propos de Patreon, on vous donne rendez-vous dès maintenant, mercredi prochain, ce sera dans l'épisode 122, avec tous les détails sur l'évolution de ce qu'on va vous proposer à partir du milieu de la semaine prochaine sur Patreon. Et on pense que ça va vraiment vous plaire, alors soyez au rendez-vous. En attendant, place à l'actu, l'info de la semaine, ce sera dans quelques minutes. Ces licenciements massifs chez les GAFAM, mais pas encore chez Apple. Et tout de suite, dans un instant, tout sur les mises à jour des OS. Les versions Release Candidate étaient arrivées en fin de semaine dernière. On se doutait bien que c'était imminent. Toutes les nouvelles versions des OS sont donc disponibles au téléchargement depuis lundi soir. On va les prendre une par une en détaillant à la fois les nouveautés mais aussi peut-être les risques ou pas à les installer sans attendre. Alors Gilles, on va commencer par toi puisque tu t'es occupé d'iOS et d'iPadOS. On parle donc des versions 16.3 qui sont donc téléchargeables pour nos iPhones et nos iPads.
Oui, alors j'ai essayé hier soir sans succès. Il a fallu fallait vraiment faire la queue. J'ai pas trop essayé de jouer avec, mais on a une petite liste et je vais vous la donner.
Ouais. Tu veux dire que ça a été compliqué de les récupérer, déjà?
Ça a été long. Ça m'a fait penser à une portée de porcelets surnuméraires en train d'essayer de se battre pour têter les serveurs d'Apple.
Bien. Donc tu as réussi à atteindre les mamelles?
Ouais. En passant par le téléchargement direct, sans réussir pendant des heures à réussir à l'avoir par le biais du Mac, ça m'a permis de faire une sauvegarde. On vous le rappelle chaque fois, il faut faire une sauvegarde avant chaque mise à jour majeure. Et ensuite, vous téléchargez et vous installez à vos risques et périls, comme va nous l'expliquer Ellie.
Alors, on va d'abord commencer à parler des nouveautés, puis après, on parlera des éventuels petits désagréments que certains ont pu rencontrer pendant les premières heures, en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'elles apportent, ces versions 16.3 d'iOS et d'iPadOS ?
Quelque chose qui va faire plaisir à Fabrice, puisqu'il y a les clés de sécurité. En l'occurrence, c'est une clé de sécurité externe qui offre aux utilisateurs la possibilité de passer par une espèce de petit dongle, comme à la grande époque, qui va permettre de shunter l'identification à deux facteurs et générer un identifiant unique. Ce qui fait que on est beaucoup plus sécurisé. Ça n'est pas non plus la panacée, puisque y a certaines marques qui ont pu être compromises, mais ça utilise le protocole de sécurité FIDO et a priori on est relativement blindé.
Qu'est-ce que tu veux dire par certaines marques ont pu être compromises ? J'ai pas compris.
Alors, UBK en particulier a eu des petits soucis apparemment de fiabilité. Certains protocoles de chiffrement ont pu être contournés. Il a fallu revenir un peu ce qu'expliquait Fabrice pour le trousseau virtuel. Les anciens modèles de clés étaient chiffrés trop légèrement et étaient vulnérables à des attaques de type plus récent.
Là, tu parles de tests qui ont été faits avec les bêtas, ou que ce soit clair ?
Non, je parle de UBK, en particulier les anciens modèles.
Oui, mais tu parles de UBK avec la version 16.3 d'iOS ?
Je parle avant. C'est l'utilitaire lui-même, c'est la clé, ce n'est pas la serrure qui est proposée par Apple et qui est compatible. C'est la clé elle-même qui était trop faible et qui pouvait être reproduite. Alors que d'accord, normalement, une clé de sécurité, elle est unique.
D'accord, donc c'est le hardware tiers qui
était en cause. Fiable,
oui. C'était pas l'OS.
C'était pas l'OS.
Oui, non, on parle bien de l'OS, essentiellement, d'abord.
Ouais. Il faut quand même se méfier, ne pas y aller les yeux fermés, et y aller avec une version récente.
Juste interromps deux secondes, Gilles, parce que François, tu nous disais dans la quotidienne que c'est une fonction que tu voulais tester et qui t'intéresse, toi, potentiellement.
C'est bien que tu me passes le plat, parce que j'allais les réclamer. Non, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça peut avoir un côté sympa. Moi, je me dis toujours qu'il faut, déjà, d'une part, il faut multiplier les couches de sécurisation. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même toutes nos données sur nos téléphones, sur nos iPads, etc. Donc, voilà, la personne qui arrive à me piquer mon téléphone, bon, voilà, il faut évidemment avoir un code bien sécurisé. Déjà d'office, un code de déverrouillage, tout bêtement, hein, parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est pas un code de déverrouillage, on le rappelle, à nos chers auditeurs, mais je suis sûr que vous avez tous une très bonne hygiène numérique, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais c'est vrai que moi, je trouve que c'est un petit côté simple, en fait, de se dire que plutôt que d'avoir un SMS, plutôt de devoir, je sais pas moi, j'espère à moyen terme lancer son application bancaire, ou voilà, on mettrait cette petite clé, cette petite carte, je pense qu'il va y avoir différents formats qui vont être développés dans les années à venir, et juste à glisser sous le téléphone, et ça permet de certifier que c'est bien nous. Ça paraît intéressant, pour moi, l'inconvénient de ce système-là, c'est juste que ça fait encore un truc de plus à perdre, quoi. Et le risque, c'est de perdre sa clé, et le jour où on perd sa clé, on sera obligé de régénérer des choses. Tout à l'heure, on va parler du fait que toutes les données iCloud vont être complètement encryptées, que les données qui sont sur votre téléphone seront aussi verrouillées, c'est-à-dire que si vous perdez votre mot de passe, vous perdez tout, hein, personne n'est en capacité de récupérer vos données. C'est bien tout ça, mais le jour où vous avez un souci, vous avez que vos yeux pour pleurer, quoi.
Donc voilà, première nouveauté, donc cette clé hardware, hein, Gilles.
Voilà,
C'est une option. Ça n'est qu'une
c'est
option,
une option, on n'est pas obligé de le mettre. Ouais. On peut passer par la double identification, comme c'est le cas actuellement, mais c'est une facilité que propose Apple et une sécurisation d'esprit pour les gens qui sont un peu tracassés par la sécurité ou qui en ont besoin de façon professionnelle. Hein. Mmh. Okay. Je ne critique pas.
Ok. Alors, autre nouveauté.
Donc la transition est toute trouvée avec les éléments apportés par François, puisqu'il y a une protection avancée des données pour iCloud, et la protection utilise un cryptage de bout en bout, un peu comme s'est vanté de faire WhatsApp, avec un haut niveau de sécurité. La fonctionnalité est mise à la disposition des utilisateurs aux États-Unis à la fin de l'année dernière, avec la sortie d'iOS 16.2, mais là, iOS 16.3 la met à la disposition de l'ensemble des utilisateurs d'Apple pour le monde entier. Alors, par défaut, Apple stocke les clés de chiffrement de certains types de données iCloud sur ses serveurs pour s'assurer que les utilisateurs peuvent les récupérer en cas de vol ou en cas de perte du téléphone, du terminal.
C'est optionnel aussi, hein ?
Oui, on n'est pas obligé, encore une fois. C'est vraiment quelque chose que on peut utiliser si on tient à voir l'état de l'art de la sécurité et du cryptage des données.
Et Fabrice a rappelé plusieurs fois qu'il faut faire attention quand même avec cette nouveauté, c'est-à-dire que si on l'active, Apple ne pourra absolument rien pour vous si vous perdez votre mot de passe général, en fait. Hein.
Voilà, c'est ce que rappelait François à l'instant aussi.
Mmh. Ok.
Il y a également un fond d'écran Unity qui est conçu pour célébrer le mois de la mémoire des Afro-Américains qui a lieu en février et il y a la prise en charge du nouvel HomePod que je crois que François vérifiait de façon compulsive tout à l'heure si la température et le degré d'hygrométrie de ces HomePod mini apparaissaient sur l'application Home. Je te rassure François, j'ai fait ça 3-4 fois tout à l'heure aussi. Et puis il y a les appels d'urgence aussi qui sont sécurisés. Ils ne se déclenchent que si on relâche les boutons. On fait appel à l'appel d'urgence en appuyant sur les boutons latéraux et ça ne se déclenche que si on lâche ces boutons.
Comme une grenade,
quoi. Et puis... Pardon ?
C'est comme une grenade.
Exactement. Et puis...
C'est bizarre comme idée de ne déclencher.
C'est plutôt si tu fais un mauvais appel, tu fais quoi ? Du coup, tu restes appuyé dessus.
C'est ça. T'es sûr que c'est bien ça, Gilles ?
Bah, c'est ce que déclarait Mike Rubens.
D'accord.
J'ai pas essayé de faire appel. J'ai eu de faux avec l'Apple Watch au début. Et
pas
puis, il y a la stabilisation du défaut qui était sur l'écran, les barres verticales qui polluaient un peu la vision sur les écrans des iPhone 14 et 14 Pro. La mise à jour de l'OS a corrigé le défaut.
Bon, tout ça vaut pour iOS et iPadOS, du coup ?
Oui, sauf qu'il ne me souvient pas d'avoir lu que les écrans de l'iPad avaient ces problèmes de lignes verticales. Et puis, il y a les corrections de bugs habituelles.
Ok, donc voilà pour les nouveautés. Bon, il y en a assez peu, mais c'est vrai qu'elles sont importantes, notamment la protection avancée des données. On va dire que le dongle hardware, ça va plus parler aux entreprises, hein, François, hein.
Ouais, c'est vrai que tout à l'heure, quand Gilles l'évoquait, ça me fait penser, le week-end dernier, j'étais à faire de la maintenance informatique chez mon beau-frère, il y avait la clé qui était connectée à l'ordi, par rapport à la banque, etc. On sait que depuis très très longtemps dans les entreprises, en fait, les banques utilisent des clés USB, il faut que la clé USB soit branchée sur l'ordi pour pouvoir faire les opérations bancaires, sinon ça marche pas. Concrètement, c'est exactement ce principe-là. La seule différence, c'est que ça marchera avec l'iPhone en direct, avec la puce NFC. Puis d'ailleurs, j'en profite pour dire, j'ai eu l'occasion d'essayer, je sais pas si vous aviez vu qu'il y avait l'application l'identité numérique qui permettait, enfin, vous alliez pouvoir utiliser votre carte d'identité comme directement sur l'iPhone, en fait. Il y a une application qui a été développée, c'est-à-dire qu'il est censé lire la puce de votre carte d'identité directement sur l'iPhone. Et en fait, du coup, vous avez moyen de dématérialiser votre carte d'identité. Ça fonctionne qu'avec les cartes d'identité, avec la petite carte à puce, avec la petite puce. Et j'ai eu l'occasion de le tester et je vais vous dire que je n'ai pas réussi à le faire fonctionner. Donc c'est pour ça que je suis assez curieux de voir si ça fonctionnera bien avec les clés de sécurité. Je pense que je vais en acheter une. C'est quand même un petit budget, 40-50 €. Mais je pense qu'on tend de plus en plus à des sites internet, à des services qui utilisent ces authentifications à deux facteurs, ce qui est très très ce qui peut être très chiant. Le week-end dernier, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de devoir me réidentifier sur des comptes. Et c'est vrai, quand le numéro de téléphone renseigné est pas le téléphone qu'on a à portée de main parce que c'est le téléphone de notre client, par exemple, et ça peut être très contraignant. Donc le côté clé sécurité, ça peut être pas mal pour s'identifier. Voilà, je vois vraiment l'intérêt, même en entreprise et même pour le particulier aussi. Les mots de passe, c'est vraiment une... Combien de fois, enfin je pense que vous allez être d'accord avec moi, combien de fois on nous dit « Ah, j'ai un problème, bah tu peux me donner ton mot de passe truc ?» Ah, je sais plus, bah je l'ai pas noté.
Eh oui.
Ça et les identifiants qui sont les mêmes partout, et puis les mots de passe qui sont de ce fait partout, et on sait plus ce que c'est qu'un Apple ID ou une adresse email ou un identifiant pour aller sur un compte à droite, à gauche, et même s'identifier professionnellement. Ne hurlez pas à la mort, ne dites pas que c'est de la science-fiction. Je l'ai vu moi aussi ce week-end.
Bon, merci Gilles pour ces nouveautés d'iOS et d'iPadOS 16.3. Ellie, on va passer à macOS 13.2 avec toi. Alors d'abord, peut-être un mot sur, on va dire, l'opportunité d'installer cette mise à jour dès maintenant. Peut-être un petit mot de prudence avant de passer aux nouveautés.
Ben oui, parce qu'en fait, j'étais impatient de l'installer pour pouvoir vous en parler à fond dans l'émission. Mais quand même, petite précaution, je suis allé voir un peu sur 2-3 sites ce que pensaient les utilisateurs. Et il n'y avait rien apparemment de très anormal jusqu'à ce que je tombe sur le post d'un utilisateur qui a dit « Il est très bien, sauf si vous utilisez Safari. » Parce que moi, quand j'ai fait ma mise à jour hier... il a mélangé tous mes signés. Il en avait plusieurs milliers, disait-il, tous classés dans des dossiers qui ont résisté à une dizaine de mises à jour au moins. Et le fait de passer à 13.2, il a retrouvé, je sais plus, il a dit près de 10 000 signés, tous mélangés et plus aucun dossier. Alors, et il est très, très, très en colère contre Apple, hein. Il a fait un post au vitriol, hein. Donc... je n'ai pas d'autres preuves, mais du coup, je ne l'ai pas installé. Heureusement, j'ai mes machines de démo qui sont arrivées en début d'après-midi, donc j'ai des machines en 13.2 sous la main pour vous en parler, et je pourrais d'ailleurs vous les montrer. C'est les toutes belles, toutes nouvelles M2 que j'ai là, juste à côté de moi. Mais 13.2, moi, je ne l'ai pas installé. Pas encore.
D'accord.
Mais
bon.
Je peux vous dire ce qu'il y a, hein.
Alors voilà, on va quand même s'intéresser aux nouveautés, avec ce préambule qui donc doit vous inciter à la prudence, en tout cas pendant les quelques heures ou les quelques jours qui viennent, le temps qu'on fasse la lumière sur cette histoire de signer. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette mise à jour 13.2 de macOS, Ellie ?
Alors, des choses dont vous avez parlé, je crois. Donc la première, c'est qu'il y a le support des clés de sécurité pour votre Apple ID. Et donc ça, vous en avez parlé, donc je reviens pas. Il y a la protection avancée pour iCloud, donc qui permet aussi de supprimer les clés qu'Apple aurait stockées sur certains serveurs permettant de récupérer son compte dans certaines conditions. Si vous cochez la sécurité avancée, il efface ces clés. Et là, c'est vous qui êtes totalement responsable. Apple a fait ça en particulier pour que les utilisateurs se sentent protégés par rapport à certains organismes de l'État, certaines agences fédérales qui pourraient, parce qu'ils le savent, demander les clés de sécurité. Et là, Apple peut dire, mais c'est les clients qui ont choisi, on ne les a plus, ces clés.
Ouais, ouais. Alors, y a un point à préciser qu'on avait évoqué avec Fabrice dans la quotidienne il y a quelques jours, c'est que pour pouvoir activer cette fonction, il faut que tous vos appareils référencés dans iCloud soient mis à jour avec les dernières versions, celles dont on parle aujourd'hui. S'il y a un seul de ces appareils qui n'est pas à jour, vous ne pourrez pas activer cette protection avancée des données. Ce D'accord. qui quand même est aussi un frein potentiel. Il suffit qu'on ait un vieil iPhone qui traîne ou un vieil iPad et c'est pas possible.
Et d'ailleurs,
c'est valable aussi pour le HomePod. Hein.
Oui, oui, oui. Tous les appareils doivent être en dernier système, puisque tous partagent des choses à travers iCloud, ne fût-ce que le mot de passe d'accès à Apple Music dans le cas du HomePod. Ouais. Donc, il faut que vraiment tous y soient. Et ceci me permet, on va quand même continuer avec quelques fonctionnalités de Ventura 13.2, mais puisqu'on parle justement de cette mise à jour nécessaire pour l'ensemble des appareils, ça me rappelle cette mise à jour qui était indispensable déjà avec iOS 16.2 par rapport à la mise à jour de Home et de votre système HomeKit et qu'Apple a retiré et qui n'est pas revenu en 16.3 parce que j'ai regardé, j'ai fait la mise à jour iOS 16.3, celle-là, elle est, comme vous avez dit, elle est safe, donc on peut la faire. Mais par contre, je pense qu'Apple a toujours pas trouvé la solution à ce problème sur HomeKit, parce que l'idée était intéressante de la nouvelle architecture, qui était de dire plutôt que ce soit l'application Home, quand elle se connecte, qui fasse le tour de tous vos devices dans la maison, il peut y en avoir un certain nombre pour certains d'entre nous, en fait ce sont les HomePod ou l'Apple TV, donc celui qui est routeur, border routeur, qui tient la liste à jour, puisque lui il est en principe dans la maison, il est toujours connecté, et en fait l'application Home s'adresse à son routeur préféré, lui dit tous les appareils sont là, donc ça va plus vite. Mais il faut que ça marche. Et apparemment, ça ne marche pas. Bref, donc ça, c'était une petite parenthèse. Pour le reste, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont corrigé un bug dans Freeform. Bon. Et puis, ils ont corrigé aussi un problème un peu bizarroïde qui fait que VoiceOver n'envoyait plus de feedback audio. Ce qui, pour certaines personnes, peut être un gros problème. Hein. Donc, toutes les personnes avec un problème d'accessibilité, c'était important, et donc là, ça a été corrigé. Pour le reste, franchement, ça s'arrête là. Hein. Donc, c'est vraiment... Il n'y a pas beaucoup de détails. Hein.
Ouais, ça veut dire que donc vraiment, la grosse nouveauté transversale, c'est la protection avancée des données, qui justifie presque à elle seule qu'il y ait une nouvelle version pour chaque appareil existant.
En fait, non. Mais ce n'est pas une nouveauté, quoique si, c'est une nouveauté. La principale nouveauté de 13.2, c'est le support des Mac M2. Parce que ce soit pour le Bien Mac sûr. Mini ou que ce soit pour les MacBook Pro, sans 13.2, il ne marche pas. D'ailleurs, ça a amené un truc rigolo. C'est pour ça que aujourd'hui, ça a été une journée compliquée. C'est parce qu'on a reçu des machines. Celles qui arrivent, je ne sais pas pourquoi, hein, en 13.0, pas en 13.1, non, en 13.0.
Ah oui ?
Et d'usine. Et donc la 13.0...
Comme quoi, elles étaient prêtes depuis longtemps. Ça confirme ce qu'on se disait.
Mais c'est vrai. Et donc, le problème, c'est que quand on installe, nous, pour les magasins, la démo automatique de ces machines, le fait d'essayer de les enrôler dans notre système de DEP qui en fait gère les machines du magasin, qui est contrôlé par Apple, si on n'était pas en 16.2, ça plantait tout le système et il fallait 13.2. Reformater les machines
13.2.
et tout installer. 13.2, oui. Oui, j'ai dit encore une bêtise, excusez-moi. 13.2 pour... oui. Bah, 13.2 pour Ventura.
13.2.
Oui.
13.2. Donc, elles arrivent en 13.0, donc ces machines d'usine. Hein, donc, ne vous étonnez pas si, quand vous déballez votre nouveau MacBook Pro 14 ou 16, La première chose, dès que vous allez le relier à un Wi-Fi ou à un réseau, avant même de vous demander votre nom ou quoi que vous vouliez, il va dire « j'ai une mise à jour ». Parce que sinon, la machine plante. Hein. Et donc là, vous êtes parti. Si vous avez une bonne fibre pour 30 minutes, ça peut être une petite heure ou deux. Donc, si vous avez un ADSL moyen, donc prenez patience. Et nous, ça a été rigolo parce qu'il ne fallait pas cliquer le mot de passe du Wi-Fi et aller plus loin parce que sinon, il ne faisait pas l'enregistrement. Et il fallait faire la mise à jour. Mais le fait de faire la mise à jour, ben, comme les clés de sécurité Apple là-dessus font 30 minutes, donc, il fallait avoir la clé de validation d'un œil, attendre la mise à jour de l'autre et éventuellement renouveler la clé avant qu'elle se coupe. Et donc voilà. Pour chacune des machines qu'on a enrôlées, j'en avais 6, et ben il a fallu une demi-heure par machine et l'œil fixé sur le chrono. Donc, c'est des petites anecdotes, mais ça m'a pris la journée.
Mais est-ce que ça ne veut pas dire que ça va être compliqué pour le grand public ? Aussi.
Non, non. En fait, la seule chose qui va surprendre les gens, c'est le fait que dès que vous allez la rallumer, la raccorder à un réseau Wi-Fi ou à une prise Internet, la première chose, il va vous dire, il faut une mise à jour. Ne vous étonnez pas, c'est normal. Ces machines sont en 13.0. Parce qu'on a pris des machines du stock, c'est-à-dire des machines qu'on a reçues pour les clients, puisqu'elles étaient en vente depuis ce matin, on a pris les premières, on les a mis pour nous en démo, mais celles qui étaient à côté, leurs voisines, qu'on a pris d'ailleurs au hasard, sont aussi en 13.0. Hein, ouais, donc, ouais.
Alors, on est le 24 janvier, donc les nouveaux Mac, ils sont sortis aujourd'hui, en tout cas à l'heure où on enregistre cet épisode 121.
Oui.
Tu en as à côté de toi ?
Oui, alors, d'abord, si vous regardez... Le coin juste là, vous voyez, ouais. Ça c'est l'écran, je le mets un tout petit peu pour que vous le voyez mieux. Ça c'est un Mac Mini M2 avec son système, ça c'est l'économiseur d'écran Apple où il écrit, voilà, MacBook Air M2, donc et avec un, c'est très joli, hein, ça montre
non,
un peu
Mac,
la puissance.
Mac Mini.
Mac Mini, oui, c'est
Studio
ça.
Display.
Mac Mini, c'est ça, exactement. Parce que c'est ce qui est censé avoir dans le showroom. Excusez-moi, moi j'étais de dos et je regardais à travers le petit moniteur. Donc,
ah, mais on corrige
voilà.
Pour toi.
Mais c'est bien. Et donc à côté, j'ai un merveilleux 14 pouces M2. Il est beau. Franchement, le 14 pouces, franchement, il est beau. Et ça, c'est le nouvel économiseur d'écran, vous voyez.
Donc c'est le 14 pouces, oui, effectivement.
Oui, ça c'est le 14, vous voyez, donc il est l'écran que vous avez l'habitude d'avoir. Alors, j'ai fait quelques petits essais au démarrage, hein, depuis 14 heures, entre deux clients, parce que je ne pouvais pas le mettre dans le showroom, il n'était pas sécurisé, il n'y avait pas les démos, donc j'allais me cacher derrière, je faisais deux, trois trucs, bling, la porte s'ouvrait, hop, retourne à ton travail. Et, mais franchement, j'avais l'autre 14 qui était à côté. Il a l'air un tout petit peu plus... déjà, le 14, c'est une bombe, hein, le M1. Mais celui-là, c'est peut-être psychologique. Hein. Peut-être que j'avais trop envie de jouer avec. Hein, mais j'ai eu l'impression qu'il était plus rapide.
Et il est
Oui.
Il est un peu plus rapide.
Il est.
Hein,
oui.
20%, on dit.
Et il y a quelques belles démos, hein, donc assez sympathiques. Donc voilà, quand vous irez chez votre APR préféré ou dans votre Apple Store, hein, nous ne sommes pas sectaires, regardez la démo de ces machines parce qu'elles sont préchargées avec un tout nouveau contenu de démo qu'ils ont fait spécialement pour les M2. Et il y a quelques démos assez spectaculaires. Peut-être qu'un jour, on refera un truc spécial. Là, je n'ai pas vraiment eu le temps de préparer ça, les connexions écran et tout. Mais bon, écoute, bonne machine. Et par contre, juste à côté, et là, il faut deux bras. C'est le tank. Voilà.
Ben oui.
Ah, il est beau, hein, mais il est beau. Écoute, ben oui. C'est... Regarde, il ne rentre même pas à l'écran.
Là, c'est le 16 pouces. Là, on peut élargir,
voilà,
vas-y.
Voilà. Donc, 16 pouces. Voilà.
Est-ce que tu hésites encore entre le 14 et le 16, Ellie ?
Non. Non. Là, je pense. Ce sera peut-être mon cadeau pour ma retraite officielle, lorsque je n'aurai plus besoin d'accéder au système de gestion de la société qui, lui, est incompatible avec des processeurs Apple parce qu'il n'est pas 64 bits, hélas. Je sais, j'ai honte, mais vous savez que les cordonniers et tout ça, bon, bref. Donc, c'est un logiciel 32 bits, hélas. Mais quand je n'aurai plus besoin de l'utiliser, ou un peu moins. Je vais directement passer, je pense, à un M2, comme ça, un 14 M2. Je pense le modèle 1 Tera. Bon, certes, c'est 2009, hein, mais ça... il faut voir que maintenant, je suis retraité. Hein. 2009,
c'est ça.
Quand même.
C'est ça.
Bon, j'espère encore qu'on me fait un bris.
Bon, et juste dernier mot, Élie, sur ces nouveaux Mac qui donc sont arrivés il y a quelques heures. En termes de quantité, de dispo, comment ça se présente?
Écoute, on en a reçu pas mal, hein. Donc on est plutôt serein. Là, pour la première vague, en tout cas, on a reçu pas mal de choses. On n'a pas tous les modèles parce qu'évidemment, il y a beaucoup de gens qui le voudront en CTO. Hein, donc, mais en tout cas, les trois modèles de base que propose Apple. On les a reçus aussi bien en 14 qu'en 16. On a reçu du Mac Mini aussi. Et c'est assez marrant, hein, parce qu'on vient de passer quelques semaines, on en a parlé, où c'était vraiment un calme plat en termes de fréquentation, magasin, etc. On commençait à être inquiet. Et le fait qu'il y ait des nouveaux produits Apple qui sortent aujourd'hui, eh bien, le magasin, il y avait pas mal de monde qui est passé pour voir s'ils étaient dispo. Certains sont venus en acheter, donc directement le matin. Vous l'avez, je peux le prendre? Bon, super. Donc, tu vois, les gens, on a beau parler de crise, etc., quand il y a des nouveaux produits, il y a des gens qui sont preneurs.
Ouais,
mais c'est bon, bien, tant mieux. Hein.
Tant mieux. Bah, écoute, c'est la bonne nouvelle du jour. Hein. La dispo et les clients, c'est tout ce qu'on te souhaite.
Merci.
On va passer à WatchOS.
J'ai une question avant, s'il te plaît. Qui a été le plus demandé, du Mac Mini, du Mac Mini Pro ou du MacBook Pro?
Écoute, je ferai le point en fin de journée. C'est une très bonne question et je te répondrai, ou on répondra dans une quotidienne ou sur Twitter. Parce que les premiers clients qui sont venus chercher un Mac Mini, ça c'était à l'ouverture. Je sais pas quel modèle parce que c'est pas moi qui m'en suis occupé. Et puis après, j'ai vu qu'il y avait des gens qui voulaient du 14 pouces. Encore une fois, c'est pas moi qui les ai servis, mais j'ai pas vu de 16, mais il y en aura peut-être, hein, ou il y en a peut-être eu, je ne sais pas. Mais au départ, c'était Mac Mini, la première machine qui s'est vendue quasiment à l'ouverture. Et puis après, c'était du 14. Et le Mac Mini, on en avait reçu hier, en fait. C'est pour ça qu'ils étaient à l'ouverture. Hein. Les autres, les 14 pouces sont arrivés en fin de matinée. Et puis voilà, mais on fera le point, je vous dirai. C'est intéressant, de toute façon, moi ça m'intéresse de savoir aussi ce que veulent les clients, hein, forcément.
Merci Élie pour ce point très complet à la fois sur macOS 13.2 Ventura et aussi l'arrivée des nouveaux Mac, donc le Mac Mini et les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces, puisqu'on est le 24 janvier, jour de l'enregistrement de cet épisode 121. On va continuer le tour des nouveaux OS avec toi, François. On va se pencher sur WatchOS 9.3. Qu'est-ce que tu as à nous dire?
Bah, ça va aller vite. Ça va aller très vite. J'ai une grande nouvelle. Il y a le nouveau fond d'écran Unity à l'image de ce qu'on peut avoir sur iOS.
Ouais.
Voilà. Et puis, des corrections de bugs. On n'en sait pas plus, c'est à la sauce Apple, correction de bugs, correction de failles de sécurité, emballé, c'est pesé, j'en ai un peu plus, je vous le mets quand même. C'est à peu près de cet ordre-là, il n'y a vraiment pas grand-chose à se mettre sous la dent du côté de WatchOS. En fait, on retrouve aussi le fait que les données iCloud soient... Enfin, Apple n'est plus la clé de sécurité, donc du coup, potentiellement, à l'image de ce qu'on a pu dire pour iOS, pour macOS. Mais c'est vrai que du côté de WatchOS, honnêtement, c'est le calme plat, et c'est un peu la réflexion que je me faisais. Je trouve que WatchOS, en ce moment, il y a très très peu d'évolution quand même. Hein. On voit pas grand-chose. Alors, on voit des petites choses quand il y a des nouveaux cours qui sont proposés par Apple Fitness, mais en dehors de ça, honnêtement, les nouveaux bracelets Unity sont disponibles aussi depuis aujourd'hui. Je sais pas si, Ellie, tu en as reçu ou c'est une...
Non. Pas encore.
C'est exclusivité Apple Store.
Je suis pas sûr. Peut-être qu'il y a une exclusivité Apple Store, ou peut-être qu'on n'en a pas commandé aussi, hein, pour le lancement. Je ne sais pas, parce que tu sais, les bracelets Apple Watch, il y en a tellement qu'en fait, on en commande quand on a un peu de demande. On peut pas les avoir tous. Hein. Donc celui-là, c'est nouveau, mais je crois que c'est une exclusivité Store, parce que sinon, on en aurait commandé au moins ne fût-ce que deux ou trois de chaque par magasin, parce qu'il y a toujours des clients qui veulent les nouveaux. Mais en tout cas, je les ai pas vus. Hein.
Donc, WatchOS, François, voilà. Alors, François, quoi de neuf pour les HomePod et les HomePod Mini?
La principale nouveauté de HomePod OS 16.3, c'est évidemment l'arrivée de ces nouveaux HomePod qui ont tant fait parler sur les réseaux, n'est-ce pas? Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que Gilles nous l'évoquera tout à l'heure, hein, mais c'est vrai que voilà, il y a une compatibilité avec ces nouveaux HomePod et puis surtout. Moi, le petit truc évidemment qui a beaucoup attisé ma curiosité, je sais que c'est pareil pour Gilles, c'est le fait que l'activation de ce petit capteur de température et d'humidité soit enfin activée et disponible. J'ai voulu le faire hier soir, et puis hier soir en fait j'avais pas la mise à jour de HomePod OS, donc je me suis dit « Oh, il y a un petit bouton, mise à jour bêta, tiens je vais tester, avec ça, ça devrait marcher ». Donc c'est ce que j'ai fait, effectivement. Effectivement, il a fait la mise à jour. Très bien. Et c'est tout. Et ce matin, j'avais rien sur l'application maison. Donc je me suis dit, ah tiens, bizarre, bon. Donc je me suis dit, ah mais oui, je suis bête, je suis pas passé en 16.3 sur mon iPhone. Donc ça doit être pour ça. Donc j'ai fait la mise à jour aujourd'hui. Je rappelle que j'ai une fibre de... Voilà, lapsus, j'en rêve tellement que j'ai un ADSL de merde à la maison. Donc pour faire les mises à jour, c'est toujours très compliqué. Et j'ai fait la mise à jour sur mon iPhone, et là ce soir en rentrant, tout guiré, je me dis chouette, je vais pouvoir avoir ces informations-là qui concrètement serviront pas à grand-chose, mais pour le plaisir de les avoir, et je ne les ai pas sur l'iPhone, toujours pas, malgré le fait que l'iPhone soit aussi en 16.3. Donc je vais essayer de creuser ça pour essayer de comprendre pourquoi, mais par contre j'ai gentiment demandé à mes chers HomePod Mini de me donner la température de la pièce dans laquelle je me situe, c'est-à-dire dans le bureau, et il m'a donné la température, étonnamment une température qui n'était pas la même. Il m'a donné, parce que j'ai des HomePod en stéréo, et donc ils sont situés de chaque côté de mes écrans. Là, vous voyez, je fais une amplitude qui n'est pas énorme si vous avez la version vidéo. Mais voilà, j'avais un petit écart de quelques 0,2 ou 3 degrés, pas grand-chose. On rappelle que la température sera indiquée entre 15 degrés et 30 degrés, c'est-à-dire que si vous avez une température inférieure à 15, logiquement, il ne sera pas en capacité de vous le dire. Et au niveau du taux d'humidité, c'est 30 et 70. Alors j'ai dans l'idée de mettre un HomePod dans mon garage, parce que ça arrive de temps en temps de bricoler, j'ai un petit HomePod mini qui attend. Donc je ferai le test et je vous dirai si effectivement on arrive à avoir les températures inférieures. Moi, je serais curieux de voir ça.
Tu peux nous rappeler comment on fait la mise à jour des HomePod Mini? Parce que je suis sûr qu'il y a plein d'auditeurs qui ne savent pas.
C'est le Saint-Esprit?
C'est loin d'être évident.
Non, je rigole.
Je parle pas des AirPods, hein, je parle du HomePod. Hein.
Non, mais c'était une vanne. Hein. Mais sur les HomePods, c'est simple. Vous avez l'application Apple Home, l'application maison. Une fois que vous êtes dans l'application maison, vous avez trois petits points en haut à droite qui vous permettent d'aller régler le domicile, et dans réglage du domicile, vous avez une petite fonctionnalité mise à jour, et là en l'occurrence, c'est mise à jour automatique, et là je vois que mes HomePod ont bien été mis à jour, et étonnamment, je n'ai que mes HomePod mini qui ont été mis à jour, mes deux HomePod classiques, les gros, les vieux, hein, le vieux modèle, très obsolète, n'est-ce pas, ne sont pas encore à jour, mais voilà, vous pouvez le faire par là. Moi j'en profite pour redire un petit truc par rapport à ça. Oubliez pas que vous avez moyen d'utiliser un périphérique, un ordinateur comme un Mac Mini ou un MacBook qui serait allumé tout le temps. Vous pouvez en fait lui demander d'être un serveur de cache d'application si vous avez beaucoup de périphériques Apple et des périphériques avec des systèmes qui sont un peu similaires en fait. Plutôt que d'aller télécharger la mise à jour sur chacun de vos périphériques en direct des serveurs Apple, en fait votre Mac va servir de serveur de cache, c'est-à-dire qu'il va mettre en tampon un certain nombre de gigas de fichiers. Bref, n'hésitez pas, vous pouvez le faire à partir du menu pomme réglage système, et c'est dans la partie partage où vous pouvez activer ce serveur de cache. Et au niveau du HomePod, il y a une autre petite nouveauté. Alors, je crois que c'est une fonctionnalité qui est réservée au HomePod mini et aux nouveaux HomePod. En fait, il est en capacité, si par hasard vous avez une alarme qui se déclenche chez vous, il est en capacité de répéter en fait cette alarme pour l'amplifier. Alors j'ai pas eu l'occasion de le tester, puis je pense pas que je vais le tester tout de suite parce que je suis dans une maison mitoyenne et je pense que mes voisins commenceront à s'inquiéter un petit peu.
Donc voilà pour la mise à jour du HomePod, la 16.3, accessible via l'application maison, mais ça suppose donc d'avoir mis à jour son iPhone d'abord. Hein.
Alors non,
oui, mais
étonnamment, tu peux mettre à jour tes HomePod sans avoir mis à jour ton iPhone.
On va pas se quitter sans dire un mot de tvOS.
Oui. Ou pas.
Ou pas, mais juste le mentionner.
Rien.
Oui, parce que tvOS, moi j'ai regardé, hein, j'ai même regardé les infos développeurs. Correction de bugs, amélioration de performance, support des clés, point. Je veux dire, il n'y a rien. Donc, Je l'ai installé, j'ai regardé s'il y avait des changements, s'il y avait là, par hasard l'icône de l'application maison. Non, toujours pas. Donc, c'est une mise à jour qui corrige des bugs, mais qu'on ne connaît pas, et qui améliore globalement l'expérience utilisateur.
Ouais. Bon.
Et je suppose qu'il supporte les HomePod en 16.3 et les HomePod quand ils arriveront avec la nouvelle spatialité, parce que évidemment il faut que l'Apple TV puisse spatialiser le son vers ses HomePod.
Absolument. Donc voilà pour les différents OS. On vous rappelle juste en termes de prudence, attention avec macOS 13.2.
Pour l'instant, oui.
Voilà, l'histoire des signets n'est pas tout à fait claire. Attendez qu'on en sache plus, peut-être 24-48 heures avant de faire cette mise à jour. Vous risquez de retrouver tous vos favoris sans dessus-dessous, ce qui peut être très embêtant si vous avez pris des années à les mettre dans des dossiers bien classés. Allez, on marque une petite pause et on se retrouve dans un instant avec l'info de la semaine, ces licenciements massifs chez les GAFAM. À tout de suite. L'info de la semaine, ce sont ces licenciements massifs chez les géants de la tech. Plus de 50 000 personnes sur le carreau en quelques jours, hein, quelques semaines, parce que ça a grosso modo commencé au mois de novembre avec les annonces, notamment chez Meta, chez Salesforce aussi. Les dernières annonces en date, elles datent de la semaine dernière. Mercredi, c'était Microsoft qui annonçait 10 000 suppressions de postes, un peu plus de 4% de sa masse salariale hein, sur 221 000 salariés. Et puis vendredi, c'est Google qui, à son tour, annonçait 12 000 suppressions d'emplois. Alors, ces deux dernières annonces s'ajoutent à celles d'Amazon, hein, 18 000 personnes, celles de Meta, 11 000 personnes. La moitié du personnel de Twitter a aussi été remercié après l'arrivée d'Elon Musk. Alors, une petite partie sont peut-être revenus parce que Elon Musk a fait machine arrière sur certaines décisions, mais ça concerne grosso modo 3700 personnes. Il y a une entreprise dont on ne parle pas au sujet de licenciements massifs pour l'instant, c'est Apple.
Oui.
Est-ce qu'Apple est protégé par un certain nombre de décisions et aussi peut-être de sources de revenus qui continuent d'alimenter l'entreprise, ou est-ce que vous pensez que c'est une question de jours ou de semaines et que Apple ne pourra pas éviter des économies comme chez ses voisins et concurrents? Qu'est-ce que vous pensez de la situation? Élie, je te sens concerné par le sujet.
Ben écoute, pour l'instant, il n'y a pas d'annonce particulière. La seule chose qu'on voit, nous, c'est que, à notre niveau, hein, c'est que tous les budgets sont en train d'être coupés. Les budgets de communication, les budgets marketing, des choses comme ça qu'on a l'habitude d'avoir, ils ont été mais vraiment taillés dans le dur. Ce qu'on a vu, c'est la baisse, l'auto-baisse de salaire de Tim Cook, hein, qui, lui, doit bien connaître la situation. Il a dit que Apple gelait les embauches. Sauf des embauches stratégiques, mais les postes de base. Il n'a pas dit qu'il licenciait. Maintenant, les résultats Apple sont début mars, si je me rappelle bien. Donc, reste tout le mois de février à traverser.
Non, et non, c'est le 2 février, les annonces de résultats.
2 février, je croyais que c'était début mars.
C'est la semaine prochaine.
Ah, c'est ok. Alors, on n'a plus longtemps à attendre, alors. Ok. Bonne précision, parce que je me disais comment on va traverser février. Mais il y a un certain nombre de choses qui sont un peu bizarres. Par exemple, ces produits qui devaient sortir, qui sortent pas, puis qui sortent de façon un peu précipitée, avec pas le bon système installé, mais il fallait les sortir. Et tant mieux d'ailleurs, parce que ça a au moins provoqué un frémissement chez les clients. Apple est un peu dans la fébrilité. Il y a cette annonce qui, moi, me préoccupe beaucoup, qui dit les Apple Glass sont, pour l'instant, presque en stand-by de façon indéfinie. Ça, c'est une mauvaise nouvelle chez Apple, parce qu'après avoir dit pendant 5 ans qu'ils investissaient des milliards de dollars, que c'était le successeur à l'iPhone en termes d'image, etc., que c'était le produit d'après, le fait de dire on les met en pause, on ne sait pas jusqu'à quand, soit ils se sont heurtés maintenant à un problème technologique qu'ils n'arrivent pas à régler, Soit ils sont très prudents sur le marché. Voilà, donc.
Mais regarde, Eli, Meta qui supprime donc 10 ou 11 000 postes, ça va affecter notamment le Reality Lab, ce qui est le labo qui travaille sur le métavers et sur les casques, etc. Donc,
Pour une raison
Zuckerberg joue
simple.
son avenir sur ses, non seulement sur ses produits, mais sur cette nouvelle dimension de l'Internet, etc. Donc, Microsoft, c'est pareil, hein, les licenciements, ils touchent essentiellement HoloLens et tout ce qui a trait à la réalité augmentée, à la réalité virtuelle. Donc, moi, je trouve c'est très, très étonnant, jusqu'à l'annonce d'Apple, effectivement,
Et
de
non.
décaler les lunettes.
Mais en fait, oui et non,
J'arrive
parce
pas à
que
comprendre. J'arrive pas à comprendre.
ben, ce qui est sûr, si tu veux, c'est que Zuckerberg a parié sur le métavers, ça a été le premier. Tout le monde a dit, mais pourquoi faire? Mais pourquoi il parle de ça? Jusqu'à changer le nom de sa boîte quand même, hein, parce que
Mais
Facebook,
oui.
c'était bien connu. Meta, bon, un peu moins. Et il semblerait, moi, tous les échos que j'ai, j'ai des copains chez Meta, hein, qui travaillent, hein, y compris dans la division, justement, Reality Labs. Et ce qu'ils me disent, c'est que le métavers n'a pas trouvé son public. Donc, je pense que tel que l'a imaginé Zuckerberg, à part pour faire des meetings, j'allais dire des réunions, enfin oui, des réunions ou des meetings
Ouais.
avec des petits avatars, pourquoi est-ce que tu achèterais un casque à 1000 ou 1700 euros pour faire des réunions que tu peux faire avec Zoom? Parce que Zoom, très intelligemment, quand ils ont vu que le métavers de Facebook, ou de Meta, pardon, marchait pas très bien, ils ont sorti une nouvelle version de Zoom qui reste gratuite, où tu mets des petits avatars, si tu le souhaites, à la Zuckerberg pour faire tes réunions. Donc, ils disent, nous, c'est le métavers, mais il est gratuit. Donc,
Et sans
bon,
casque.
et sans
C'est
casque.
pas besoin de casque.
Donc, tu vois, il y a des petits malins qui surfent, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, moi, je ne connais personne qui soit dans le métavers de Facebook et qui trouve ça bien ou utile. Personne. Ce en quoi celui
Ouais.
d'Apple est censé être différent, on le verra au niveau du casque quand il sortira, parce que le casque Reality One ou Reality Pro, eux ne sont pas stoppés, hein. Ils sont trop proches de la sortie pour qu'ils les arrêtent. Mais par contre, ils ont intérêt à nous sortir un OS qui soit tellement différent de celui de Meta et de Microsoft que les gens adhèrent parce qu'il faut qu'il soit totalement différent, totalement nouveau et novateur. Il faut que les gens
Ouais.
s'y retrouvent. Sinon, jamais tu payes 3 000 $ ou 2 000 $ pour avoir un Facebook Biz. Donc.
Ouais, Gurman disait ce week-end que Reality OS, ça allait être iOS en 3D.
Ah, bon. Sans plus?
En gros, c'est ce qu'il expliquait,
Oh, il y aura des petits trucs quand même.
Je sais
Si c'est
pas.
juste avoir des icônes en 3D.
Je sais plus là, tu vois. Moi, je suis très troublé par ces décisions presque synchronisées chez Microsoft, chez Meta et chez Apple autour des projets liés aux environnements immersifs, à la réalité augmentée. C'est très, très étonnant quand même, non?
Peut-être que les gens n'ont pas envie de passer leur journée dans un monde parallèle avec un casque, un peu comme à l'époque de Second Life, hein, rappelez-vous, il y a des
Ben oui,
années et des
mais.
années.
Regarde, Meta, ils ont, tu l'as dit, ils ont changé de nom pour s'appeler Meta. Donc, François.
Est-ce qu'on s'est pas toujours dit qu'en fait ce qui manquait c'était vraiment la killer feature, le truc qui fera que les gens aient envie d'acheter ce casque?
Oui, bien
Est-ce que
sûr.
c'est pas là, comme d'habitude, où Apple va réussir à nous tirer le lapin du chapeau? Je repense à l'iPhone, je repense à l'iPod, je repense à plein de trucs. C'est des technos qui existaient déjà, mais on l'a répété un certain nombre de fois. C'est le fait que ce soit Apple qui l'ait bien produit, qui l'ait bien fait, qui a fait que ces technos-là a marché. Et je pense que si Apple réussit à faire fonctionner ça, je pense que ça répercutera aussi sur toutes ces entreprises comme Meta et compagnie qui arriveront du coup à, entre guillemets, remonter la pente, je pense, parce que ces technos-là deviendront mûres et deviendront matures. Mais qu'est-ce qu'Apple va nous proposer? Pour moi, c'est là la question. Mais
C'est
je me
ça,
vois bien
ouais.
enregistrer la quotidienne ou l'hebdo avec mes lunettes, et puis on serait comme si on était ensemble autour d'une table. Ce serait
Mais oui,
chouette.
mais justement, pourquoi est-ce
Ouais.
qu'Apple range son projet de lunettes sur une étagère de manière
Est-ce que c'est
indéfinie
vraiment rangé?
sans.
Est-ce que c'était si avancé que ça? Finalement, on n'a jamais eu
Bah
trop vent
écoute,
de.
bah, encore
Je
une
sais
fois,
pas.
c'est Gurman qui a sorti l'info. Ça peut encore changer, mais on lui fait suffisamment confiance pour se dire que s'il a avancé ça, c'est qu'il avait quand même des biscuits sérieux, quoi.
Il laisse peut-être aussi une chance au produit, au casque, de voir comment le casque va prendre. Et si le casque prend, ils décideront peut-être à développer les lunettes. Et si ça prend pas, ils laisseront tomber le projet.
Gilles.
Oui, pour répondre à ta première question, pourquoi les autres et pas Apple? C'est une question de vision et de modèle économique. Meta, Google sont extrêmement dépendants de la publicité. Amazon a aussi un modèle mixte. Et si la vache à lait, ce sont les services web, et si les gens diminuent leurs achats de services web, les revenus baissent d'autant. Et donc j'en viens à mon histoire de vision. Il n'y a pas de vision, je pense, chez Microsoft, chez Google. Il y a des opportunités, alors que Apple a une vision stratégique et des secteurs stratégiques dans lesquels ils investissent quoi qu'il arrive. Ils restent sur ce qu'on appelle le cœur et quitte à réduire la voilure sur ce qu'on appelle le contexte, c'est-à-dire les services annexes, le soutien, etc. Pour prendre une image, Apple perd ses feuilles quand le temps devient plus difficile, tandis que chez les autres, on coupe carrément une branche.
Mais comment tu comprends la décision d'Apple si elle est confirmée, hein, de reporter à l'infini le projet autour des lunettes?
Je pense que c'est une question de composants. Ils ont essayé de développer un composant soit en interne ou éventuellement de l'acheter sur étagère chez les fournisseurs, les Taïwanais et autres Chinois ou peut-être Allemands ou Français, que sais-je. Et ce composant-là ne vient pas, donc on remet s'inédier. C'est ce qui a failli arriver au lecteur de disquette du Macintosh, le premier. Normalement, ce qui était prévu, c'était un lecteur de disquette produit en interne, et ils ne sont pas arrivés à le produire, et ils se sont repliés en catastrophe sur la disquette 3 pouces 1 quart qui avait été développée par Sony. C'est ce qui les a sauvés, sinon on aurait commencé comme le Lisa avec une disquette de 5 pouces et demi. Ou 5 pouces, 5 quarts, je ne sais plus.
5 pouces, 1 quart, et l'autre est une 3 pouces et demi. Tu les as inversés, mais on a compris.
Pardon. C'est ça. D'accord. La question des composants...
C'est vraiment un truc de vision et de stratégie.
Ouais.
Hein.
Ouais. Je suis assez d'accord avec toi sur sans doute le problème autour des composants, Élie.
Alors, deux petits points par rapport à ce qu'a dit fort justement Gilles. C'est la vision de Meta sur justement le métaverse est une vision très perturbante dans le sens où ils ont essayé de créer un univers virtuel basé sur une économie de marché où tu pouvais aller dans une ville et acheter une maison au prix d'une maison dans la vraie vie, acheter un pull virtuel au prix d'un pull dans la vraie vie. Et je pense que c'est totalement incompatible avec l'économie mondiale actuelle, l'inflation, les coupures X et Y. Qui va aujourd'hui mettre... je sais pas moi, 3 millions de dollars de ta fortune pour acheter une maison virtuelle dans le métavers de Mark Zuckerberg. Très peu de monde. D'abord, il faut avoir 3 millions de dollars. Mais bon, c'était complètement hors de prix. Ça s'adresse à des privilégiés ultra riches qui, en fait, sont pas forcément des fans de techno. L'univers Apple, s'il est bien, on va pas se baser sur ça. C'est comme le NFT qui, aujourd'hui, marche pas vraiment.
Exactement,
le NFT,
ouais.
Parce que c'est une vision, quoi. Et en plus, il y a des scandales, des gens qui se sont fait avoir, il y a des procès, c'est très compliqué, le NFT. Mais la différence, c'est qu'Apple vont sortir quelque chose qui doit être nouveau, et derrière, il y a une communauté de gens qui disent « c'est nouveau, c'est beau, on achète ». Voilà, les gens, les clients d'Apple sont des fidèles. Évidemment, des clients à 2 000 $, il y en a moins que des clients à 400, mais il y en a quelques-uns. Et si l'OS est suffisamment différenciant. Si la qualité des images avec toutes ces caméras, etc., si la légèreté du casque fait que, mais de toute façon, Apple a bien dit très prudemment, c'est un produit professionnel que nous destinons aux professionnels. S'ils sortent un produit de visualisation 3D pour des voitures, par exemple, tous les constructeurs de voitures vont l'acheter. S'ils font un système qui permet, grâce au lidar, oui, ça fait des années qu'ils travaillent dessus, hein, qui permet à un architecte d'intérieur ou à une agence immobilière de faire une visite virtuelle d'un appartement ressemblant à de la réalité, ils peuvent acheter un casque qui va être utilisé de façon professionnelle et qui va leur faire gagner beaucoup de temps pour faire pareil, visiter un appart, une villa, etc. Regardez, est-ce que vous sentez devant? Est-ce que ça vous plaît? Oui, allons la voir en vrai. Mais déjà, ça, est-ce que ça vous plaît? Là, il y a une possibilité. L'autre chose, c'est que certains comme Google ou Microsoft, je pense qu'ils se sont pris de plein fouet le succès incroyable de l'intelligence artificielle. Ils travaillent tous sur de l'intelligence artificielle, mais c'était des projets confidentiels, presque qui en tâche de fond, en se disant peut-être dans 3 ans, dans 5 ans, on va le sortir, on travaille, on va voir s'ils sont intelligents ou pas, nos intelligences artificielles et tout. Et puis est arrivé OpenAI, il a dit, regardez, bing, regardez comme ça marche bien. Et alors là, ça a été vraiment panique de, je connais plusieurs personnes chez Google, ils ont dit c'était comme si on avait eu une bombe atomique en plein milieu de notre campus. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, est-ce que notre business model est mort? Est-ce que notre moteur de recherche peut être remplacé par un ChatGPT, ce qui est d'autant plus idiot que ChatGPT n'est pas connecté à Internet. Hein. Donc pour faire une recherche Internet avec un moteur non connecté, mais il peut répondre des choses, mais pas des choses en temps réel. Vous cherchez un resto à Nice, c'est pas ChatGPT qui va vous le dire, ou alors c'est un vieux resto. Donc, vous
D'ailleurs,
voyez,
ce qui
c'est.
est intéressant, c'est que Microsoft s'est tout de suite positionné par rapport à OpenAI. Ils vont quand même injecter 10 milliards de dollars
Alors
dans
qu'ils
la
avaient
boîte.
investi 1. Donc là, ils multiplient par 10 leur mise, hein, parce
Ouais,
qu'ils étaient
ouais.
déjà dedans. Hein.
Parce qu'ils veulent
Donc,
préempter.
bien sûr.
Ben oui.
C'est ça.
Et sachant
Il
que si je
pense
dis
à
pas de bêtises.
Bing, il pense à Bing ou il pense à quoi à Microsoft en faisant
Ah
ça? Parce
ben,
que du coup,
certainement.
ce qu'il dépense dans OpenAI, il cesse de le dépenser en salaire. Enfin, c'est un peu comme ça que je vois
Visiblement,
le transfert.
ils évoquent une intégration dans Office.
Oui.
Étonnamment. Alors, c'est pas la première idée qui me
Donc, il
viendrait,
faut
mais
que
c'est
ça
ce qu'ils
soit
ont l'air de
dedans.
dire. Oui, c'est ça.
Au lieu de sortir, d'aller dans Azure, je ne me souviens plus le nom du
Bing.
navigateur de
Edge.
Bing, c'est
Edge.
le moteur, oui.
Edge. Edge.
Au lieu de sortir avec et d'aller dans le navigateur, on va refaire un spotlight qui sera directement intégré dans la suite Office, dans le navigateur, sachant que la particularité d'OpenAI, c'est que il est dans un bac à sable, isolé de toutes les pollutions de l'écume d'Internet et des réseaux sociaux.
Ce qui n'est pas le cas de certains de ses concurrents. Certains de ses concurrents sont
Voilà.
très connectés à Internet. Hein.
Ils ont le souvenir d'ailleurs de. Ils avaient fait un essai Microsoft en disant venez éduquer, apprendre des choses à notre intelligence artificielle. Et il y a tout un tas de trolls qui s'étaient donné à cœur joie et ils en avaient fait un équivalent d'un militant de QAnon débordant de haine. Enfin, ça a été une catastrophe et ils l'ont retiré rapidement.
Oui.
Ils ont mis fin à l'expérience.
Donc,
Alors, donc
voilà,
il
ça
faut
c'est une
ces
des
trucs à
raisons.
manipuler avec précaution.
Donc c'est peut-être un marché qu'ils ont tous raté, qui se disent, attends, et si on faisait de l'intelligence artificielle en priorité, ne nous laissons pas décrocher par les autres, et on voyait le métavers un peu après, si jamais c'est possible en plus. Ça coûte cher, hein, parce que, mais c'est tellement à la mode. Moi, j'ai participé à des réunions ici avec la métropole de Nice Côte d'Azur. Ils sont tellement persuadés que c'est génial, ils voulaient développer en urgence un métavers ville de Nice. Et je leur ai dit non, mais attendez, calmez-vous. pour faire quoi? Parce qu'il vaut mieux Nice, il vaut mieux l'avoir en vrai. Hein, donc, faites venir les gens sur place, parce que s'ils restent chez eux, ils ne viennent pas chez nous. Hein, donc,
c'est ça.
Mais bon, tellement de gens en parlaient.
Par rapport à Apple, pour revenir à Apple, Ellie, tu confondais février et mars, mais c'est peut-être parce que le 10 mars, ce sera la réunion annuelle des actionnaires d'Apple.
Oui.
C'est peut-être cette date-là que tu avais en tête.
Oui, pas le trimestriel, absolument. Tu as raison.
Et c'est vrai qu'entre le 2 février et le 10 mars, il peut se passer beaucoup de choses. C'est vrai que le fait que Tim Cook ait de lui-même divisé son salaire par deux, en gros, hein, sur 2023... Oui. C'est sans doute un signe de fébrilité.
Bah, ils s'attendent à une année difficile. Hein. Franchement, ils s'attendent à une année difficile. Hein. Tous les gens que je vois chez Apple disent 2023, ça va être compliqué. Ils ne disent pas mauvais,
c'est
ils disent
un truc de... C'est quelque chose de moral, je crois. Et il y a une vraie dimension morale dans le capitalisme chez Apple. Steve lui-même avait dit... ça sert à rien de mourir le plus riche du cimetière. Il y a ce truc-là aussi chez Tim Cook. Et donc là, il renonce à la moitié de ses bonus.
Oui, non, mais c'est facile à dire, mais en attendant, il...
Les résultats sont pas là, quoi. Et donc, il...
Moi, ça me fait un peu marrer, quand même.
Non, parce qu'il n'y a pas d'autres...
C'est un geste.
Il y a tout un tas de gens, compris parmi les chefs d'entreprise français de très grosses... boîtes dont les résultats se cassent la gueule et qui doublent ou qui multiplient leur salaire en disant je me mets au niveau des autres et c'est ma décision et vous n'êtes pas content, je vous merde.
Il y a ce truc-là. C'est un très mauvais message. C'est un très mauvais message. Le message positif de Tim, c'est qu'il anticipe une année qu'il sent ou qu'il sait difficile, parce qu'ils ont des prévisions à un autre niveau que ce qu'on peut avoir, nous. J'avoue que dans l'histoire d'MCS, il nous est arrivé quelquefois, mon frère et moi, de réduire notre salaire de façon volontaire parce que c'était soit ça, soit licencier des gens. Et on a préféré baisser notre salaire que licencier des gens. Donc, on aurait pu dire, non, mais nous, on a notre salaire, attends, les autres, bon, on peut en virer un ou deux, c'est pas grave. Donc, il y a une forme de moralité, je suis d'accord avec ça, mais ces gens du CAC 40 qui ont doublé ou triplé ou multiplié par 100 leurs bénéfices, ces sociétés, alors que avec l'inflation qu'on a et le prix de l'électricité, il y a des gens qui arrivent pas à la fin du mois, les résultats de certaines sociétés du CAC 40 sont honteux. Ok, c'est capitalisme, ok, mais ils sont honteux par rapport au contexte actuel. Mais c'est comme ça.
Et il y a autre chose aussi, c'est que la plupart des cadres de haut niveau ont valorisé leurs bonus et les stock options et ont vendu leurs actions. Tim Cook a gardé les siennes. Et donc il dit, je ne me paie pas sur la bête, je suis aux commandes et... ça secoue un peu, il y a des paquets de beurre, mais je continue.
Oui, mais moi j'ai une bonne explication à ça, hein, c'est que l'action Apple était tombée à $124 il y a quelques jours. Là, elle est en train de remonter un peu. Bah non, il s'en fout pas, non. Bah non.
Non.
Il prend. Je veux dire, personnellement, il n'est pas à ça près.
Non, mais il va pas les vendre quand l'action est au plus bas. C'est juste. Et c'est pas bon pour la boîte non plus. Je veux dire, c'est encore pire pour la boîte si le boss vend quand l'action est au plus bas. Ça veut vraiment dire qu'il saute du bateau.
C'est la panique, hein. Là, c'est clair.
Ben oui.
Hein.
Donc, je ne suis pas d'accord avec toi du tout, Gilles, là-dessus.
Non, ça serait un signal pour la bourse. Ça serait énorme si Tim Cook vendait ses actions maintenant. Ça serait vraiment la panique. Hein. Donc,
Il aurait pu en valoriser un certain nombre en disant, bon, j'ai besoin de sous.
Il
a besoin de sous pour refaire la salle de bain, ouais, c'est ça.
Il y a la question du niveau. En fait, on est sur des montants qui sont quand même assez énormes. Je peux entendre qu'on peut avoir des gros trains de vie. Tim Cook est quand même pas réputé pour ses frasques, pour autant on pouvait dire à l'époque Steve Jobs et son bateau ou son yacht, etc. Tim Cook a pas l'air d'avoir une vie vraiment de star et à claquer de l'argent. Donc tout bêtement, peut-être qu'il s'est dit voilà, il a senti, comme le dit Ellie, le vent tourner en se disant voilà, l'année va être compliquée. On voit qu'au niveau mondial, hein, au niveau financier, c'est compliqué, bah plutôt qu'on lui force à baisser son salaire a posteriori ou qu'on le dégage, il anticipe et il dit bon bah voilà, moi je diminue un peu ce que je me mets dans la poche, il aura quand même de quoi manger demain, quoi. C'est... Faut pas s'inquiéter outre mesure. Maintenant, c'est entre guillemets bon prince, et quand on peut entendre tous les dirigeants du 440 ou autres qui sont partis avec des parachutes dorés, etc., oui, c'est bon prince. Mais je trouve que ça correspond plutôt à la personnalité de Tim Cook, qui a quand même l'air d'être quelqu'un de relativement intègre, je trouve, dans ses combats.
Ouais. Il y a aussi un point très important, c'est que Apple est en train de se désengager fortement du marché chinois au niveau de la production. Et il peut y avoir des inconvénients. D'abord, ça coûte cher. Il faut trouver des pays, il faut trouver des usines, il faut les mettre en route, etc. Et d'un autre côté, les Chinois, ils vont pas adorer perdre ces marchés-là. Donc, il peut y avoir des répercussions au niveau des ventes d'Apple dans le marché chinois. Donc, d'un côté, il y a le gouvernement américain et surtout le Congrès actuel qui, si Tim Cook dégage pas une grosse partie de ses activités en Chine, vont lui tomber dessus. Et de l'autre côté, il y a les Chinois qui disent « Oui, mais si vous partez de chez nous, on va pas vous rendre la vie facile. Hein. » Donc, il est pris vraiment entre le marteau et l'enclume.
Je suis pas tout à fait d'accord avec Ellie. D'une part, la Chine est devenue chère à la production. Et ce, depuis maintenant 10 ans. Et c'est pour ça qu'il va au Vietnam, aux Philippines ou en Inde. Et il se désengage un peu, mais c'est pas seulement les gouvernements, les administrations américaines, ça représente un risque systémique. J'ai un peu râlé là-dessus depuis plusieurs années. C'est identifié maintenant comme un risque systémique et Apple se doit de se désengager de la Chine. On ne sait pas ce qui peut advenir.
Bon, en tout cas, moi, je fais un pari. Ça m'est venu il y a quelques jours. Je ne sens pas Tim Cook passer l'année 2024. C'est mon sentiment à moi. Je ne suis pas sûr qu'il partira dans l'année, mais à mon avis, s'il ne part pas en 2023, il partira en 2024. C'est juste mon sentiment à moi. Mais voilà, je n'en sais rien et je n'ai aucune certitude, mais j'ai l'impression que le board, pour tout un tas de raisons, au bout d'un moment, va avoir envie de le remercier pour tout ce qu'il a fait et va avoir envie de 109 à la tête d'Apple. Ce sera un autre sujet. Je vous laisse y réfléchir.
Un bonus Patreon, peut-être.
Voilà, un très gros bonus Patreon, effectivement. Bon, je vous laisse y réfléchir.
Ouais. Il partirait avant que la voiture sorte et avant que les Apple Glass sortent. Quel aveu d'échec.
Bah, si les Apple Glass sont remis sur une étagère indéfiniment,
c'est pas
bon, oui.
Hein.
Bah oui.
Oui, c'est pas
bah,
bon.
Oui.
Bon
bah, en même temps, il restait une petite place à côté de la télé. Hein.
C'est pas faux. Non, le casque sera peut-être son dernier gros projet nouveau. On verra. Dans un instant, on se retrouve tous les quatre, et notamment avec toi, Gilles, pour ta mise au point de la semaine. La mise au point de Gilles Dounès. Gilles, cette semaine, tu voulais revenir sur le lancement du HomePod 2, et notamment avec la présentation qui en a été faite à un certain nombre de journalistes tech américains.
Oui, Apple a fait une sorte de pré-présentation dans des conditions très standardisées, comme eux seuls savent le faire, dans une sorte d'appartement témoin, d'après ce qui a fuité, avec bien entendu des morceaux choisis au sens propre du terme, mais également un temps d'écoute hyper formaté, un placement imposé dans la pièce, interdiction de prendre des photos, etc. etc.
Oui, alors je précise qu'un appartement témoin comme celui-là, il y en a un à Londres, juste à côté de l'Apple Store de Regent Street. Hein. J'y suis allé une fois. Ça a fonctionné, Gilles ? Quels ont été les premiers tours de nos confrères américains ?
Alors, tout le monde a été agacé par les contraintes imposées par Apple, mais tout le monde a également été impressionné par le son de ce nouvel HomePod, y compris Chris Welch, qui a été envoyé par The Verge et qui a fait tout son possible pour faire passer l'idée qu'il n'y avait pas grand-chose de nouveau du point de vue du son par rapport au premier modèle qu'il n'avait pas testé. Enfin, c'est pas lui qui avait signé le test, entre parenthèses. Mais ce qui est intéressant, c'est combien il a insisté sur le dernier morceau qu'Apple a tenu à faire jouer par son enceinte pour clore la présentation.
Oui, on en a parlé d'ailleurs lundi dans la quotidienne. Hein, c'est la version d'Hotel California par les Eagles au concert d'Inglewood en Californie en 2018. Et tu as noté, Gilles, que justement cette écoute insistait sur l'introduction à la trompette. Et le journaliste de The Verge a bien été obligé de reconnaître que ça sonnait de manière impressionnante.
Oui, il a insisté là-dessus, sur ce morceau, cette partie assez longue. Il faut dire que l'album est disponible sur le Music Store en version Dolby Atmos et qu'Apple l'a pas choisi par hasard, puisque la prise de son a été particulièrement soignée avec des micros un peu partout dans le stade. Mais à mon avis, c'est pas la seule raison. D'abord parce que les Eagles ne sont pas des inconnus chez Apple. Tu te souviens de la phrase « Hell falls over » prononcée par Steve pour annoncer la version d'iTunes pour Windows. Tu n'as pas vu venir, hein, celle-là.
Non, ça je n'y attendais pas du tout, non.
À la Macworld de 2003.
Ouais, d'accord.
C'est en fait une référence, une réponse de Don Henley, le leader du groupe, lorsqu'il avait répondu par la négative à l'éventualité une question sur la reformation des Eagles, mais également c'est le nom d'un album en concert qui a suivi. Alors, cet interminable solo de trompette m'a fait penser à la musique de Rio Bravo, le film de War Hawks, avec l'attaque de Fort Alamo, avec le général Anna, qui avait, selon la légende, fait jouer pendant les 3 jours qui avaient précédé l'attaque finale une sonnerie de trompettes de cavalerie, héritée des traditions de l'armée coloniale espagnole, avec ce degüello qui signifie « pas de quartier ».
Et tu penses qu'Apple en est là, Gilles ?
Ah, mais quand on connaît la communication d'Apple un petit peu, on sait bien que le moindre battement de cils peut être interprété, va être interprété, et il n'y a qu'à voir la façon dont le visuel de chaque keynote était scruté jusque récemment, y compris dans l'équipe. Alors, c'est bien comme ça qu'il faut l'interpréter, a fortiori quand on sait que d'autres éléments sont dans le pipeline pour venir appuyer les ambitions d'Apple en matière de domotique et de musique dématérialisée. Ils sont quand même engagés à fond avec Apple Music et ne cessent d'alimenter et d'apporter de nouveaux morceaux. On est à plus de 100 millions et l'offre augmente encore avec le Dolby Atmos. Apple aurait d'ailleurs tort de se priver puisque Google et Amazon, ses principaux concurrents dans le secteur, ont été obligés de réduire la voilure et même d'abattre un certain nombre de vergues sur ce sujet. On en a parlé précédemment. Et d'ailleurs, ça marche. Les listes d'attente s'allongent. 3 à 4 semaines aux États-Unis, 5 à 6 semaines au Royaume-Uni, et 1 mois en Allemagne, même si la France a un délai pour l'instant qui est réduit à une petite semaine. Donc, on va voir comment ça se passe dans les Apple Air, mais rendez-vous début février.
Oui, parce que la sortie du HomePod 2, c'est le 3 février. Hein. Donc, c'est à la fin de la semaine prochaine.
C'est bien ça, oui.
Ouais. Merci, Gilles, pour cette mise au point. Effectivement, il y a eu beaucoup de turbulences hein, au moment de l'annonce de ce HomePod 2. François Moi, je sais que tu attends avec impatience de le tester.
Ah ben, je pense que j'irai en magasin le tester parce que j'ai eu l'occasion de le critiquer. Et on m'a reproché sur les réseaux le fait de ne pas d'avoir critiqué sans avoir écouté.
Non, mais tu l'as critiqué. Moi, j'ai dit la même chose que toi, c'est-à-dire le même au même prix. Apple a pas tiré d'enseignement du premier. Maintenant, j'espère qu'il sonne un peu mieux. J'espère. Mais bon,
ouais, non, c'est pas le son. Le son était génial, tout le monde l'a dit, même The Verge. C'est la tripaille domotique qui est montée en puissance. Et alors j'ai une hypothèse même. On a critiqué le fait que Apple était redescendu sur du 802.11G. Pardon, 802.11.
Oui, le Wi-Fi 4.
N, au lieu de 802.11AC. Je pense que c'est pour forcer l'utilisation de la bande des 2,4 GHz qui est utilisée d'habitude pour le streaming audio, pour le streaming audio aussi principalement. Et il y a la diffusion est beaucoup plus homogène en cercle, et ça éviterait à mon avis aussi le saut des fréquences, le fait de passer de 2,4 à 5 et la désynchronisation qu'on peut avoir entre les paires. J'ai demandé confirmation à Apple, j'ai pas eu de réponse. On verra après ce qui sera dit pendant les présentations avec les ingénieurs Apple.
Ouais. Bon, OK pour le Wi-Fi 4, ça peut peut-être s'entendre, mais sur l'aspect domotique, ils pouvaient pas faire autrement. Le HomePod Mini et concentrateur et thread, ils pouvaient pas faire moins avec le HomePod.
C'est pour ça qu'ils ont supprimé l'autre.
C'est pas un argument.
Mais ouais. ils ont remis le HomePod à niveau du HomePod Mini. Ils ont enlevé la première version parce que c'était les orteils dans l'eau pour tester la température de l'eau du bain. Ils n'étaient plus à la hauteur.
Non, mais c'est une mise à jour, mais c'est pas un nouveau HomePod. Non, mais pardon.
Faut voir le son, mais c'est une deuxième version comme ils savent faire. On reproche pas au MacBook Pro M2 d'être à peine un peu plus rapide par rapport au M1.
Non, mais au moins c'est clair, c'est le même avec juste un processeur M2. Au moins c'est clair.
Ben, à mon avis, c'est la même chose pour le HomePod.
Je pense que moi, on a vu des bruits circuler aujourd'hui. Je sais pas si vous avez vu les news, donc on est mardi. Comme quoi, en fait, le HomePod de première génération aurait été retiré parce qu'il y aurait eu des problèmes au niveau de la qualité, c'est-à-dire qu'il y aurait eu pas mal de pannes, etc. Donc c'est quelque chose qui est sorti sur les sites d'ActuMac, je sais pas. Mais moi, je maintiens malgré tout que, voilà, il y a eu l'argument de l'inflation, etc. Moi, je trouve que c'est un produit à 350 balles qui est, entre guillemets, hors sol. Je trouve, et pour finir et clôturer sur ce sujet-là, moi j'ai beaucoup de soucis de déconnexion en ce moment sur les HomePod. Je pense que c'est aussi lié à la qualité de mon réseau Wi-Fi et au fait que je sois en ADSL et pas en fibre. Et ça m'arrive régulièrement en fait que les HomePod ne fonctionnent plus, déconnectent, ok très bien. Et hier soir à un moment j'ai un de mes deux HomePod qui s'est déconnecté, donc du coup j'avais plus le son en stéréo. Et honnêtement la différence de son en stéréo c'est top, mais je trouve qu'en mono le son est pas si bon que ça. Le son prend vraiment du corps en stéréo, donc ça veut dire que ça vous revient à quasiment 700 balles.
Ouais.
Et je trouve que 700 balles pour deux HomePod, ça reste trop.
Moi, je fais une prévision, malgré l'ajout de la domotique dans le HomePod, il ne vendra pas plus que le premier modèle. Hein.
Bah, ça sera encore une déception pour Apple, parce que ce que je peux vous dire, c'est que pour le lancement, c'est le produit qu'ils mettent en avant, bien au-delà, pour l'instant, des MacBook Pro M2 et du Mac Mini. Il ne nous parle que du HomePod. Vraiment, on attend ça comme le messie. Enfin, en tout cas, eux, ils attendent ça, le déploiement HomePod. Vous allez voir HomePod, soyez prêts. HomePod, touchez à rien. HomePod, les posters qu'on a reçus. HomePod, les cours qu'on passe. Mais HomePod, donc c'est vraiment l'annonce. Et à un moment donné, je leur ai dit, mais vous savez que vous avez annoncé des MacBook Pro M2 quand même. Hein, ouais, HomePod. J'ai dit, ouais, d'accord, ok. Bon. Si vous voulez.
Tu me fais
donc,
penser.
Non, ils y croient, hein.
Tu me fais penser au sketch de Will Ferrer sur le iPod. C'est une parodie de la campagne de pub Switch. Mm. Je ne sais pas si vous l'avez. J'essaierai de mettre le lien sur Twitter. Et je mettrai également le lien avec les deux morceaux, celui de Rio Bravo et celui d'Hotel California.
Bon, tu sais, moi, je pense que du point de vue d'Apple, ils doivent se dire ah non, mais vu l'inflation, il aurait dû être plus cher. Là, déjà, voilà, la bonne nouvelle, c'est qu'il est au même prix qu'au lancement du 1. On va rappeler que le 1 avait baissé légèrement de prix à 329 euros.
Et que c'est là où il avait commencé à se vendre. Ouais.
Voilà, et là à 349, en fait, le 2 en fait, est au même prix que le 1 au lancement. Voilà, je maintiens ce que je pense, je suis tout à fait sur la ligne de François. Et maintenant, effectivement, on va attendre de l'écouter. Et j'ai envie de dire, j'espère que la moindre des choses, qu'il ait un son exceptionnel. Sinon, sinon on va en faire du petit bois, quoi.
Ouais, mais
c'est le dollar qui lui a fait, qui lui a fait gagner 20% entre 10 et 20%. Il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé aux États-Unis.
Moi, je suis très. Oui, ça, c'est sûr. Moi, je suis très curieux de l'écouter parce que Apple est très fort au niveau manipulation du son, les beamforming, ils sont très forts. Mais là, ils vont à l'encontre de ce que font tous les autres. Parce que, vous savez tous, moi, ça fait je ne sais pas combien de dizaines d'années que je suis un passionné de musique. Un caisson de basse, le boomer, il est toujours vers le bas. Les tweeters, ils sont en haut depuis que les enceintes existent. C'est toujours été comme ça. Et Apple, là, dans ce nouvel HomePod, il nous met le boomer vers le haut et les tweeters en bas, à l'envers de toute l'industrie. Il y a forcément un truc. Parce que si
c'est
ça marche...
Il faut le mettre à l'envers.
Oui, et là, tu vois plus l'affichage. Mais comme ils ne l'ont pas changé, c'est ce que j'ai dit, de toute façon, on ne le regrettera pas. Mais ça le rendra un peu instable. Mais non, mais sérieusement... mettre le boomer vers le haut, à part que ça va faire bouger l'afficheur, hein, peut-être que ça va le faire vibrer. J'attends de voir, parce que c'est pas comme ça que marche en principe une enceinte. Donc, bon, on va voir.
On va voir, on va voir, on va voir. Merci en tout cas, Gilles, de nous avoir ramené au sujet du HomePod. Tu vois qu'il y a un sujet un peu clivant, mais on est entre nous, donc ça se passe bien.
Ouais, c'est bien.
Allez, on se retrouve dans 3 secondes avec nos coups de cœur et nos cartons de la semaine peut-être. Nos coups de cœur, nos cartons rouges de la semaine, c'est une semaine assez aride, hein, parce qu'on a deux petites mentions là chez Ellie et d'abord chez toi François, ça va être rapide paraît-il.
Ouais, mais c'est juste un petit clin d'œil qui m'a bien fait rire, je vous l'ai envoyé en photo, j'ai fait la mise à jour de ma voiture, n'est-ce pas, de ma Tesla, et le petit truc que les enfants aiment bien, c'est le fait qu'elle puisse faire des proutes. Il y a des enceintes sous la voiture, et en fait, on peut faire péter sa voiture, donc c'est quand même une fonctionnalité révolutionnaire. Ils l'ont même intégré directement au mode Sentinelle, c'est maintenant quand vous êtes sur votre iPhone et que vous contrôlez que personne ne frôle votre voiture, vous pouvez déclencher un paix à distance, et votre voiture pétera, donc c'est très bien. Et en fait, sur...
Ouais, l'humanité c'est les ingénieurs avance.
C'est ça.
Et les ingénieurs sont formidables, parce que j'ai une bonne nouvelle, le paix est maintenant certifié.
Bon. C'est un
pet
vache,
d'origine contrôlée, c'est ça.
Ouais, c'est ça.
Petit clin d'œil au rachat de Twitter par Elon Musk, c'est-à-dire que maintenant, quand vous allez sur l'écran de votre voiture et que vous activez le paix, vous avez le petit V de validation, le petit symbole bleu, comme quoi le paix est bien certifié, c'est marqué paix certifié.
Donc c'est un paix d'Elon, c'est ça.
Et il a payé 8 dollars pour le faire certifier.
C'est ça, ou 54 milliards, je sais pas.
Donc ça sent le petit clin d'œil des ingés de Tesla et je trouve ça très drôle.
D'accord. Ok, d'accord. Ok. Ouais. Ellie, toi, ton coup de cœur, c'est sur, sur un écran. Ouais.
Non, deux séries. Ouais, sympa que je regarde. En ce moment, les séries commencent à sortir et je me dépêche de les regarder parce qu'il y a les gros faiseurs qui arrivent
et
là.
Oui. Et oui.
Donc, bientôt, Ted Lasso, bientôt.
Mandalorian, de la mars.
Mandalorian, très bientôt. Et donc effectivement je regarde Last of Us, ils sont à l'épisode 2. C'est un univers que j'aime pas particulièrement, l'univers des zombies etc. dans les jeux vidéo j'aime pas particulièrement, mais je dois reconnaître que la série est très bien faite et ça se regarde quoi, parce qu'il se passe des choses. Et puis par contre si vous aimez de l'action, alors c'est pas tout public hein, c'est pour un public averti, majeur et vacciné, entre guillemets. Il y a la saison 4 de Fauda, cette série israélienne qui a connu un succès énormissime partout dans le monde. Ouais. Et le premier épisode, ça démarre sur les chapeaux de roue et ça ne s'arrête pas. C'est pendant une heure, t'es accroché à ton siège et tu te dis, oh punaise, mais quand est-ce que ça s'arrête? Et puis l'épisode 2, c'est pire. Donc c'est, là, je suis au 2. C'est un truc, il faut prendre son souffle, hein, mais c'est pas facile à regarder, mais c'est tellement bien fait et tellement, tellement intense pour ceux qui aiment les séries d'action. Allez jeter un coup d'œil, c'est juste dingue.
Fauda, c'est sur quel...
Netflix.
Quel, ok, quel opérateur Netflix. Ok. Merci Ellie, merci François pour ces deux coups de cœur, trois, deux ou trois. L'épisode 121 est terminé, vive le 122, rendez-vous mercredi prochain, nous serons le 1er février. Merci de votre fidélité et de votre soutien. Un petit rappel, si vous ne faites pas encore partie de la communauté iWeek sur Patreon, eh bien rejoignez-la. Vous nous aiderez à continuer l'aventure iWeek. Ça se passe sur patreon.com/iWeek. On y consacrera d'ailleurs une page spéciale mercredi prochain dans l'épisode 122 avec tous les détails sur l'évolution de notre présence sur Patreon. Et on croit que ça devrait vous plaire. Vous retrouvez également cet épisode en vidéo, en avant-première dès le jeudi et sans pub sur patreon.com/iWeek si vous êtes contributeur. Si vous ne l'êtes pas et que l'épisode vidéo vous intéresse, alors un peu de patience, il est sur YouTube à partir du dimanche. Salut les amis, salut François.
Salut Benji, et encore une grosse pensée pour notre ami Fabrice qui est en train de se remettre d'une petite grippette. Décidément, il est très peu chanceux depuis quelques semaines.
Exactement, mais il paraît qu'il prend son thé au citron et au miel avec un mug exceptionnel, donc ça va forcément lui porter bonheur.
Ça aide.
Salut Ellie.
À bientôt, à la semaine prochaine.
Ah, avec grand plaisir. Et salut Gilles.
Et salut Benjamin, je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine.
Ouais, avec grand, grand plaisir. Alors pour patienter jusqu'à mercredi prochain, ne manquez pas la quotidienne iWeek. Vous savez, c'est le podcast court compagnon de la semaine Apple. 5 à 10 minutes chaque jour avec les 5 infos essentielles des dernières 24 heures. Vous connaissez le principe. Déjà 316 épisodes disponibles sur votre plateforme de podcast préférée. Un clic sur suivre ou sur s'abonner et vous ne manquerez plus aucun épisode. Et en plus, c'est gratuit. Suivez-nous sur les réseaux, Twitter @iWeekNews, Instagram @iWeek.news. Prenez bien soin de vous, parlez d'iWeek autour de vous. Vous le savez, vous êtes nos meilleurs ambassadeurs et on a besoin de vous. Passez une bonne soirée, une très belle fin de semaine et à mercredi prochain. Salut à tous, bye bye.
Ciao, bye.
Bye bye.